Monsieur et Madame Fougeray restaient dans un coin, lui sombre et l'expression inquiète, elle plus pâle encore que d'ordinaire. On savait que l'arrestation de l'ingénieur était décidée. L'un des magistrats, s'adressant aux quatre joueurs, leur dit
« L'instruction, messieurs, va procéder à la reconstitution de la soirée du vendredi. Vous voudrez donc bien reprendre vos places autour de la table afin d'esquisser la partie de baccarat telle qu'elle eut lieu. Inspecteur Béchou, vous tiendrez la banque. Vous avez demandé à ces messieurs d'apporter le même nombre de billets qu'ils avaient ce jour-là. »
Béchou répondit affirmativement et s'assit au milieu de la table. Alfred Auvard et Raoul Dupin à sa gauche, Louis Batinet et Maxime Tullier à sa droite. 6 jeux de cartes étaient disposés. Il fit couper et tailla. Chose bizarre, tout de suite, comme au soir tragique, la veine favorisa la banque. Aussi aisément que le banquier Paul Erstein, le banquier Béchou gagna. Tandis qu'il abattait 8 ou 9, les bûches alternaient sur les deux tableaux, et cela régulièrement, d'un seul élan de la chance qui s'obstinait, sans ses à-coups et ses revirements qui, malgré tout, avaient marqué la première partie. Cette continuité, pour ainsi dire mécanique, semblait due à un sortilège qui acquérait un sens d'autant plus déconcertant que c'était la répétition d'un fait dont les joueurs avaient déjà subi le choc. Désemparé, Maxime Tuilier se trompa 2 fois. Jim Barnett s'impatienta et, d'autorité, prit sa place à la droite de Béchou. Au bout de 10 minutes, car les événements marchaient à une vitesse que rien ne ralentissait, plus de la moitié des billets de banque tirés de leur portefeuille par les 4 amis encombraient le tapis vert devant Béchou. Maxime Tuilier, par l'intermédiaire de Jim Barnett, commençait à perdre sur parole. Le rythme s'accéléra. Vivement, la pointe extrême de la partie fut atteinte. Et soudain, Béchou, comme l'avait fait Paul Erstein, divisa son gain en 4 liasses proportionnelles aux pertes, proposant ainsi les 3 quitte ou double définitifs. Ses adversaires le suivaient du regard, impressionnés évidemment par le souvenir du soir tragique. 3 fois, Béchou servit les 2 tableaux. Et 3 fois, au lieu de perdre, comme Paul Erstein avait perdu, Béchou gagna. Il y eut parmi les assistants de la surprise. Pourquoi la chance, qui aurait dû tourner pour que le miracle du renouvellement se continuât jusqu'au bout, favorisait-elle encore celui qui tenait la banque? Si l'on sortait de la réalité connue pour entrer dans une réalité différente, devait-on croire que cette autre version était la bonne?
« Je suis confus, » dit Béchou, toujours dans son rôle de banquier, et qui se leva après avoir empoché les 4 liasses de billets.
De même que Paul Erstein, il se plaignit de migraine et souhaita qu'on l'accompagnât sur le balcon. Il s'y rendit tout en allumant une cigarette. On le vit de loin, par la porte de la rotonde. Les autres demeuraient immobiles, le visage contracté. Sur la table, les cartes s'éparpillaient. Puis, à son tour, Jim Barnett se leva. Par quel phénomène avait-il réussi à donner à sa figure, à sa silhouette, l'apparence même de Maxime Tuilier, qu'il venait d'écarter du jeu et dont il tenait la place? Maxime Tuilier était un garçon d'une 30aine d'années, serré dans sa veste, le menton glabre, un lorgnon d'or sur le nez, l'air maladif et inquiet. Jim Barnett fut cela. Il s'avança vers la rotonde, lentement, d'un pas d'automate, avec une expression qui était tantôt dure et implacable, tantôt indécise et effarée. L'expression d'un homme qui va peut-être accomplir un acte terrible, mais peut-être aussi s'enfuir comme un lâche avant de l'avoir accompli. Les joueurs ne le voyaient pas de face, mais les magistrats le voyaient. Et ils oubliaient Jim Barnett, interprète dont ils subissaient la puissance, pour ne songer qu'à Maxime Tuilier, joueur décavé qui rejoignait son adversaire victorieux. Dans quelle intention ? Son visage, qu'il cherchait à maîtriser, trahissait le désordre de son esprit. Allait-il prier ? Ou ordonner ? Ou menacer ? Quand il entra dans la rotonde, il était calme. Il referma la porte. La représentation du drame, drame imaginé ou reconstitué, était si vivante que l'on attendit en silence. Et les trois autres joueurs attendaient aussi, les yeux attachés à cette porte close, derrière laquelle se passait ce qui s'était passé au soir tragique, et derrière laquelle ce n'était point Barnett et Béchou qui jouaient leur rôle d'assassins et de victimes, mais Maxime Tuilier et Paul Erstein qui se trouvaient aux prises. Puis, après de longues minutes, l'assassin, pouvait-on l'appeler autrement, sortit. Titubant, le regard halluciné, il retourna vers ses amis. Il avait les quatre liasses à la main. Il en jeta une sur la table et, de force, enfonça les trois autres dans les poches des trois joueurs en leur disant « Paul Erstein, avec qui je viens de m'expliquer, m'a chargé de vous rendre cet argent. Il n'en veut pas. Allons-nous-en. » À quatre pas de lui, Maxime Tuilier, le véritable Maxime Tuilier, blême et décomposé, s'appuyait au dossier d'une chaise. Jim Barnett lui dit « C'est bien cela, n'est-ce pas, monsieur Maxime Tuilier ? La scène a été reproduite dans ses points essentiels ? J'ai bien joué le rôle que vous avez joué l'autre soir ? N'est-ce pas ? J'ai bien évoqué le crime ? Votre crime ? » Maxime Tuilier semblait ne pas pouvoir entendre. La tête basse, les bras ballants, il avait l'air d'un mannequin que le moindre souffle va faire tomber. Il vacilla comme un homme ivre. Ses genoux fléchirent. Il s'écroula sur sa chaise. Alors Barnett bondit sur lui et le saisit au collet. « Vous avouez, hein ? Pas possible autrement, d'ailleurs. J'ai toutes les preuves. Ainsi, le coup de poing américain. Je puis établir que vous en portiez toujours un sur vous. En outre, votre perte au jeu vous démolissait. Oui, mon enquête m'a révélé que vous étiez très bas dans vos affaires. Plus d'argent pour vos échéances de fin de mois. C'était la ruine. Alors vous avez frappé. Et ne sachant quoi faire de l'arme, vous avez enjambé le balcon et vous l'avez enfoui sous la terre. » Il était inutile que Barnett se donnât du mal. Maxime Tuilier n'opposait aucune résistance. Écrasé sous le poids d'un crime trop lourd pour lui et dont il portait le fardeau depuis des semaines, il balbutia, malgré lui, sans plus de conscience qu'un moribond qui délire, les mots terribles de l'aveu. La salle s'emplissait de tumulte. Le juge d'instruction, penché au-dessus du coupable, notait la confession involontaire. Le père de Paul Erstein voulait se jeter sur l'assassin. L'ingénieur Fougeret criait sa rage. Mais les plus acharnés, peut-être, étaient les amis de Maxime Tuilier. L'un d'eux, surtout, le plus âgé et le plus notable, Alfred Ovar, le couvrait d'invectives.
« Tu n'es qu'un misérable ! Tu nous as fait croire que ce malheureux nous avait rendu l'argent, et cet argent, tu l'avais volé après avoir tué !»
Il lança la liasse de billets à la tête de Maxime Tuilier. Les deux autres, indignés eux aussi, piétinèrent un argent dont ils avaient horreur. Le calme se rétablit peu à peu.
On emmena dans une autre salle Maxime Tuilier, presque évanoui et gémissant. Un inspecteur ramassa les liasses de billets qu'il remit au magistrat. Ceux-ci prièrent monsieur et madame Fougeret de se retirer, ainsi que le père de Paul Erstein. Puis ils félicitèrent Jim Barnett de sa clairvoyance. « Tout cela, dit-il, cet écroulement de Maxime Tuilier, ce n'est que le côté banal du drame. Ce qui en constitue l'originalité, ce qui fait qu'il se présente comme un drame profondément mystérieux, alors que ce ne devrait être qu'un fait divers, provient de tout autre chose. Et bien que ceci ne me concerne pas, si vous voulez bien me permettre... » Alors Jim Barnett se tourna vers les trois industriels qui conversaient à voix basse, s'approcha d'eux et frappa doucement l'épaule de M. Hovard. « Un mot, monsieur, voulez-vous ? Je crois que vous pourriez apporter quelque clarté sur une affaire encore très obscure. »
« À propos de quoi ? » ?»«
À propos du rôle que vous y avez joué, vous et vos amis, monsieur. »«
Mais nous n'y jouons aucun rôle. »
Un rôle actif, non, bien entendu. Cependant, il y a certaines contradictions troublantes et qu'il me suffira de vous signaler. Ainsi, vous avez déclaré, dès le lendemain matin, que la partie de baccarat aboutit à 3 coups en votre faveur, ce qui annula vos pertes et détermina votre paisible départ. Or, cette déclaration se trouve contredite par les faits.
Il y a là, en effet, un malentendu. La vérité, c'est que les 3 derniers coups ne firent qu'ajouter à nos pertes. Paul Erstein s'est enlevé, Maxime, qui semblait tout à fait maître de lui, le suivit dans la rotonde pour fumer une cigarette, tandis que tous les trois, nous restions à causer. Quand il revint, 7 ou 8 minutes après, peut-être, il nous dit que Paul Erstein n'avait jamais envisagé cette partie comme sérieuse, que c'était un simulacre de partie engagé dans les fumées du champagne, et qu'il tenait à nous rendre l'argent, mais à la condition qu'on ne le sût point. La fin de la partie serait considérée, au cas où on en parlerait, comme l'exacte compensation des pertes subies.
Et vous avez accepté une pareille offre. Un cadeau que rien ne motivait. Et l'acceptant, vous n'avez pas été remercié Paul Erstein. Et vous avez trouvé naturel que Paul Erstein, qui était un joueur endurci, habitué aux gains comme aux pertes, ne profita point de sa veine. Que d'invraisemblance!
Il était 4 heures du matin, nous avions le cerveau surchauffé. Maxime Tuilier ne nous laissa pas le temps de réfléchir. Pourquoi d'ailleurs ne l'aurions-nous pas cru, puisque nous ignorions qu'il l'avait tué et volé?
Mais le lendemain... Vous saviez que Paul Erstein avait été tué.
Oui, mais tué sans doute après notre départ, ce qui ne changeait rien au désir exprimé par lui.
Et pas un instant vous n'avez soupçonné Maxime Tuilier.
De quel droit ? C'est un des nôtres. Son père était mon ami, et je le connais depuis son enfance. Non, nous n'avons rien soupçonné.
En êtes-vous bien sûr ? Jim Barnett avait jeté ces mots d'une voix ironique. Alfred Hovard hésita quelques secondes et riposta avec hauteur.
« Vos questions, monsieur, m'ont tout l'air d'un interrogatoire. À quel titre sommes-nous donc ici ?»«
Au point de vue de l'instruction, à titre de témoin. Mais selon moi... »«
Selon vous ?»«
Je vais vous l'expliquer, monsieur. » Toute cette affaire, en réalité, est dominée par le facteur psychologique de la confiance que vous inspiriez. Matériellement, le crime ne pouvait être commis que de l'extérieur ou de l'intérieur. Or, tout de suite, l'enquête s'est tournée vers l'extérieur, pour cette raison que, a priori, on ne soupçonne pas le bloc d'honorabilité et de probité que forment 4 industriels riches, décorés, de réputation intacte. Si l'un de vous, si Maxime Tuilier avait été seul à jouer une partie d'écarté avec Paul Erstein,
on l'eût indubitablement suspecté. Mais vous étiez quatre joueurs, et Maxime fut momentanément sauvé par le silence de ses trois amis. On n'imagina point que trois hommes de votre importance puissent être complices. Pourtant, c'est ce qui fut, et c'est ce que j'ai pressenti tout de suite.